BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée aux élections législatives 2024 dont le premier tour est prévu ce dimanche. Nous recevrons l'intégralité des candidats de la 9e circonscription et ce matin, je suis en compagnie de Diana Badiop pour le Nouveau Front Populaire avec son suppléant Pierre Krasuki. Diana Badiop, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, une question qu'on a posée à tous les candidats. Qu'avez-vous pensé du choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale le soir des élections européennes le 9 juin dernier ?
Je trouve que c'est un choix qui n'est pas responsable, surtout dans la période où il a choisi de le faire. Il faut savoir qu'au soir des élections européennes, la majorité présidentielle a été disqualifiée quand on voit le score qu'il a obtenu. Et surtout, c'était un vote sanction contre Emmanuel Macron et sa politique menée depuis 7 ans. Il fallait effectivement redonner la parole aux électeurs, le pouvoir de choisir effectivement celles et ceux qui vont mener la politique. Il aurait pu le faire dans un temps beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'il a choisi la période la plus courte. Ce faisant, moi j'aime à dire qu'en fait ce sont des élections législatives précipitées. Et le faire le soir où l'extrême droite qu'il prétend combattre a obtient le score le plus élevé jamais connu dans la 5e République, c'est prendre le risque de voir Jordan Bardella, Premier ministre, et précipiter notre pays des droits de l'homme dans l'obscurité. Donc je crois que c'est un choix de pompier pyromane qu'il continue d'ailleurs avec ses différentes déclarations. J'en veux pour preuve la lettre adressée aux Français encore hier, qui finalement légitimise l'extrême droite, parce qu'en fait, c'est un aveu d'échec cette lettre. C'est un aveu d'échec. Et je ne vois pas comment il peut être la solution quand il a été celui qui est à l'origine du problème. L'électorat de gauche a voté par 2 fois pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Au lieu d'en être une digue, il a été la passerelle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Nouveau Front Populaire, qui est la seule alternative crédible. Le peuple de gauche a besoin justement de se retrouver dans une candidature unique dans chacune des circonscriptions. Pour la 9e, ce sera la mienne.
Justement, amène cette deuxième question. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter ?
Alors, pour 2 choses. Parce que moi, je fais partie de cette génération. Moi, je suis née en 74. J'ai connu cette génération, justement, de touche pas à mon pote. Toute celle qui a lutté, justement, contre les discriminations, contre le racisme. Moi, je suis cette génération cosmopolite qui a grandi dans la diversité, des origines et des confessions, sans jamais se poser la question de me dire... d'où je suis, je me suis toujours sentie française et nous avons toujours eu cette fraternité parce qu'on l'a portée ensemble. En 2002 vient ce choc de Jean-Marie Le Pen qualifié au second tour des élections présidentielles. 1 million de personnes dans la rue et pour la première fois je vote à droite parce que pour moi c'est essentiel de ne pas laisser cette idéologie arriver. Aujourd'hui nous sommes en 2024, on a comme une sorte de fatalité le fait que systématiquement l'extrême droite est présente au second tour des présidentielles, voire même elle arrive en tête des expressions. Eh bien moi j'ai dit je ne peux pas rester en dehors de ce combat et c'est un combat que je vais mener au sein du Nouveau Front Populaire et sur ma circonscription, dans celle qui m'a vu grandir. Moi je suis une enfant des Mureaux, j'ai toujours été là, mes parents sont arrivés au début des années 70, je fais partie de cette vague d'immigration. Mais c'est aussi porter l'espoir que la gauche, comme toujours, elle est au rendez-vous quand l'histoire la convoque. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser l'extrême droite être au pouvoir et surtout être notre vitrine lorsque nous allons recevoir le monde le 26 juillet prochain à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Avant de se tourner vers votre programme, on peut parler aussi un peu de votre parcours. Mm-hmm. Comment vous avez démarré en politique ?
Alors, j'ai démarré en politique parce que ma mère était présidente de l'association des parents de la vigne blanche, où j'ai grandi, au Mureau. Et en fait, j'étais sa petite main. Je faisais toute la partie un peu administrative. On organisait des sorties, des séjours pour les mamans, pour les enfants. Elle faisait le lien avec les institutions. Ma mère faisait partie des rares à avoir fait des études, à parler parfaitement le français quand elle est arrivée en 1972, et elle m'a toujours poussée à faire des études. Et quand elle a vu que bah il y avait parfois des incompréhensions entre l'école et la mairie, l'école et l'inspection académique, je lui ai dit, les gens sont venus l'avant en disant, toi, tu parles bien français, ce serait bien que tu nous aides justement à faire ce lien. Donc, en fait, j'ai fait l'apprentissage de cette éducation populaire, de cet apprentissage de la citoyenneté à ses côtés. Et puis, en 2008, le secrétaire de section socialiste est venu me voir en me disant, pour les prochaines élections, on aimerait t'avoir sur notre liste. C'est comme ça que j'ai commencé. Et première campagne, premier mandat, j'ai été adjointe à l'éducation. Je suis élue depuis, j'ai été adjointe à l'éducation, à la culture. Aujourd'hui, je suis aux relations internationales. Et il se passe que, en parallèle, au niveau national, j'ai eu la possibilité d'entrer au secrétariat national du Parti socialiste via Luc Carvenas, qui est maire d'Alfortville, qui était mon représentant dans le Parti socialiste. On a différents courants. Il était le représentant du courant que j'ai soutenu. Et en fait, quand ils ont demandé un représentant, ben c'était moi. Et depuis, depuis 6 ans, je suis porte-parole nationale du Parti socialiste. Je suis aussi conseillère régionale. J'étais la tête de liste du parti pour les élections régionales en 2020. Et donc, en fait, moi, mon parcours, c'est vraiment quelqu'un qui est parti du terrain. J'ai continué à être enseignante au Val-Fouré à Rostand. Je suis prof de lettres histoire. Moi, je ne conçois pas la politique autrement que d'être en proximité, d'être à l'écoute et aussi d'être le porte-voix des préoccupations. Par exemple, au conseil régional, je défends par exemple les missions locales et aussi les espaces dynamiques d'insertion qui ont vu leur budget baisser par la majorité régionale de Valérie Pécresse. J'ai mis en place au Mureau un musée numérique pour rendre la culture accessible. Mon premier projet, c'était le pôle Molière. Qui est aujourd'hui un pôle éducatif qui accueille une crèche, vous avez une école, mais vous avez aussi une ludothèque. Moi, c'est comme ça que je fais de la politique. J'ai toujours été quelqu'un qui me dit comment est-ce que je peux améliorer la vie des gens et comment concrètement je peux leur apporter des solutions qui sont en lien avec ce qu'ils vivent. Ouvrir, par exemple, des stages de découverte d'instruments à des enfants qui n'ont jamais touché un violon, une guitare, et à la fin de ce stage, en lien avec le Lions Club, ceux qui ont été les plus assidus, on leur offre un an de conservatoire. Et comme ça, on leur dit, vous savez, ça coûte pas plus cher de faire du foot que d'aller apprendre à faire du violon. Et parfois, on a vu des jeunes enfants se révéler et avoir un coup de cœur pour un instrument qu'ils n'auraient jamais découvert. Ils n'auraient jamais fait de la clarinette ou de la flûte s'ils n'avaient pas eu cette opportunité. Moi, je crois que c'est ça. Ouvrir le champ des possibles, ne pas assigner à résidence les gens.
On s'est basé sur les préoccupations des Français, vous en avez parlé à l'instant, les préoccupations. Dans un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qui était sorti le 6 juin dernier, juste avant les élections européennes, en première position arrive le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans votre programme, le pouvoir d'achat.
Oui, parce que le pouvoir d'achat, c'est ce qui rythme le quotidien des personnes que je reçois et même des personnes que je côtoie. Quand vous avez des mères de famille qui vous disent « je peux pas payer la cantine parce que moi, le 15 du mois, j'arrive en faisant mes courses en tremblant parce que je sais pas si ma carte, elle va passer ou pas. » C'est pour ça que dans le Nouveau Front Populaire, nous avons fait des propositions concrètes pour augmenter le pouvoir d'achat. Comme par exemple, l'augmentation du SMIC à 1 600 € par mois net. Nous, on veut pas de prime ponctuelle. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre dignement de leur travail tout le temps. Parce qu'on a trop de travailleurs précaires. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est-à-dire des gens qui travaillent. Vous avez des familles, elles travaillent toutes les deux. Mais comme elles travaillent toutes les deux, elles sont juste au niveau de ce qu'on appelle les aides. Elles ont droit à rien. Elles ont 2 enfants. Et du coup, ce sont ces gens-là qui, parce que au niveau des tranches, elles sont juste, elles dépassent d'un tout petit peu, elles n'ont droit à aucune aide. Aucune aide pour la rentrée scolaire, aucune aide pour la cantine, pas de bourse. Et ce sont ces gens-là qui ont ce sentiment de déclassement, d'être un peu les oubliés de la République. Il y a aussi cette question d'accès aux soins, accès aux services publics. Nous voulons qu'il y ait un service public fort, soutenir les maisons de santé, avoir la possibilité aussi de se dire qu'une fois qu'on sera à la retraite, on pourra vivre aussi dignement. C'est pour ça que une des premières mesures que nous mettrons en place, c'est l'abrogation de la réforme des retraites qui est injuste, qui s'est faite contre 9 Français sur 10 et puis surtout dont les femmes sont les plus grandes perdantes. Je vais vous prendre mon cas qui est tout simple. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans. Avec l'ancienne loi, avec trois enfants, j'aurais pu partir à 59 ans, 60 ans, parce que j'ai trois enfants. Avec cette réforme des retraites, je ne peux pas envisager de partir à la retraite avant 64 ans. Donc vous voyez, il y a une injustice. Je ne parle même pas des femmes d'agriculteurs en milieu rural qui aident leur conjoint et qui se retrouvent, justement parce qu'elles aident leur conjoint, avec un minimum vieillesse. On ne prend pas en compte ce qu'elles font. Je ne parle pas de ces éboueurs, de ces hommes et ces femmes qu'on a applaudi aux 20 heures pendant le Covid, qui se lèvent à 5 heures du matin, 6 heures du matin, mais qui ont une activité qui est perlée, qui est le plus souvent à mi-temps ou à trois quarts temps, et qui vont aussi être mal rémunérés au moment de la retraite parce que cette réforme, elle est injuste. Donc ça fait partie des mesures que nous allons mettre en place. Bloquer les prix de l'électricité, de l'alimentation, indexer par exemple le salaire des fonctionnaires sur l'inflation. Toutes ces mesures, ce sont des mesures de pouvoir d'achat. Parce que nous savons que c'est la première préoccupation des Françaises et des Français.
La seconde préoccupation, c'est l'immigration, avec 36% des voix. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je crois qu'il faut décorréler immigration et insécurité. Parce qu'en fait, la première préoccupation, c'est pas l'immigration. C'est parce que l'extrême droite nourrit ce fantasme que les problèmes d'insécurité seraient liés à l'immigration. Je veux juste te rappeler que l'immigration, aujourd'hui, ça ne représente qu'à peine 10% de la population française. Des personnes qui sont de nationalité étrangère, qui sont parfaitement insérées, qui travaillent, qui participent à l'économie de notre pays. Il y a une petite partie des personnes qui, effectivement, arrivent sur notre sol, qui sont en situation irrégulière. Dans ces personnes qui n'ont pas de papier, je veux aussi rappeler que vous avez des personnes sans papier qui travaillent, qui payent des impôts et qui, elles, ne sont pas régularisées. Ça, c'est une hypocrisie et c'est une aberration. Vous avez des personnes, des jeunes mineurs aussi, qui travaillent, qui sont en apprentissage. Je pense à mon ami et camarade Stéphane Ravaclet. Vous avez tous entendu parler de lui. C'est ce boulanger qui avait fait une grève de la faim parce que il ne voulait pas que son apprenti soit raccompagné à la frontière parce que travailler avec lui, il était complètement inséré et qu'il avait besoin de lui. Nos hôpitaux aujourd'hui, vous le savez, quand vous arrivez, la majorité des cas, vous arrivez, c'est une personne de nationalité étrangère qui va vous soigner. Les aides-soignantes qui sont dans nos EHPAD, qui prennent soin des personnes âgées, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont d'origine étrangère. La sécurité, c'est l'affaire de tous et c'est un bien précieux. On a tous le droit à la tranquillité, on a tous le droit à ce que de se sentir en sécurité. C'est pour là ça que nous proposons le retour de la police de proximité. Moi, j'ai grandi avec des îlotiers, des gens qui connaissent votre quartier. On doit aussi permettre à nos forces de l'ordre d'avoir une meilleure formation.
En quelques mots, puisque notre émission touche à sa fin, pour repartir sur le local, votre avis sur la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui agite beaucoup les élus en ce moment sur les Yvelines.
Dans notre profession de foi, vous verrez que nous nous sommes engagés à nous opposer à la ligne nouvelle Paris-Normandie. Pourquoi? Parce que cette ligne ne permet pas d'un accès à la mobilité digne de ce nom, par exemple pour les villes de Bonnières, qui sont justement un peu les oubliées, toutes ces lignes qui sont de l'autre côté, qui toutes ces villes comme Oudan, etc. Le problème, c'est qu'avec la ligne nouvelle Paris-Normandie, vous allez baisser le nombre de trains qui vont pouvoir s'arrêter dans ces villes intermédiaires. Et donc, encore une fois, on favorise les grandes villes et on laisse de côté toutes celles et ceux qui sont sur les lignes connexes.
Dina Badiop, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera rediffusée à 18h. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast élections législatives. Demain, nous retrouverons les premiers candidats de la 8e circonscription, Nicolas Mangani, Saba El Asri et Léon Chevalier. Nous présenterons leur programme. À très vite sur BPM.
BPM, élections législatives 2024.